À contre-taf.
À contre-taf.
Les jeunes veulent travailler, mais ça manque d'opportunités et il faudrait aussi de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires.
À contre-taf.
À contre quoi ?
À contre-taf, toutes les 4 semaines, le mardi, de 20h à 21h.
Alors, ça rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Toi, tu vas un peu à contre-taf. Sur Radio Campus 93.9 FM.
Faire le travail qu'on choisit et qu'on aime, c'est un luxe pour toute la vie. Allez-y, faites ce que vous voulez faire. Lancez-vous.
Bonjour, bienvenue sur À Contre-Taf, où nous parlons santé mentale. Aujourd'hui, nous ouvrons une émission consacrée à un sujet qui nous concerne tous, souvent plus qu'on ne l'imagine, la santé mentale au travail. Le dernier rapport de la grande enquête sur la santé mentale au travail 2026, menée par l'IFOP pour Moka Care, le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et le Boston Consulting Group dressent un constat à la fois encourageant et préoccupant. Encourageant parce que le bien-être mental des salariés français progresse légèrement, le score moyen de bien-être passe de 59,8 à 62,8 sur 100 et près de 3 salariés sur 4 se disent aujourd'hui en situation de bien-être psychologique. Mais préoccupant parce que derrière cette amélioration, la réalité reste fragile. Un salarié sur 4 demeure en situation de mal-être et surtout 7 salariés sur 10 déclarent avoir déjà ressenti un trouble psychique lié à leur travail. Stress chronique, fatigue mentale, trouble du sommeil, perte de motivation, le travail qui devrait être un lieu d'épanouissement devient parfois une source profonde de souffrance. Certaines catégories sont particulièrement touchées, les femmes davantage exposés aux discriminations et à la surcharge mentale, les jeunes actifs, notamment les moins de 35 ans, qui subissent plus fortement le stress et l'anxiété, mais aussi les managers, souvent pris entre pression des résultats et responsabilité humaine. Le burn-out, lui, n'est plus un phénomène marginal. Près d'un salarié sur 4 dit en avoir vécu un au cours des 5 dernières années. Et pourtant, la parole reste difficile. Plus inquiétant encore, les tabous reviennent. Près d'un tiers des Français considèrent encore les troubles psychiques comme un signe de faiblesse. Alors, une question s'impose. Comment mieux protéger la santé mentale au travail? Quel rôle pour l'entreprise, pour les managers, pour les collègues? Et comment sortir enfin de cette nouvelle culture du silence? Car la santé mentale n'est pas une affaire privée que l'on laisse à la porte du bureau. C'est un enjeu humain, économique. Un salarié qui va mal travaille moins bien, s'isole davantage, s'absente plus souvent et parfois finit par partir. Prévenir, écouter, accompagner, ce ne sont plus des options mais des nécessités. Avec nos invités, nous allons creuser la question afin de mieux comprendre ce que révèle cette enquête 2026 et surtout ce qu'elle dit de notre rapport au travail. Merci d'être avec nous sur le 93.9 avec À Contre-Taf, l'émission qui remet le taf à sa place.
À Contre-Taf sur Radio Campus Paris.
Allez, va bosser, feignant.
Le boulot, c'est le boulot.
Au sommaire, l'interview innovation avec internet. Nous recevrons Moka Care qui a réalisé ce rapport en partenariat avec l'IFOP. À la chronique humoristique, c'est moi-même, Hugo. Francesca nous fera également l'horoscope des métiers et surtout dans un instant, la grande interview avec la directrice de l'expertise Corporate and Work Experience pour le groupe IFOP Rien Que Ça. Just get ready for work, 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 work. Nous nous retrouvons pour la grande interview avec Francesca. À son micro, c'est Flora Bommelin, comme je l'ai dit, qui est directrice de l'expertise corporate et work experience pour le groupe IFOP. Elles vont nous parler de la grande enquête sur la santé mentale au travail 2026. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Bonsoir Flora.
Bonsoir, tu m'entends bien ?
Très bien, oui, merci. Alors déjà, merci beaucoup pour d'avoir répondu pour la seconde fois pour nous, en tout cas, éclairer sur À Contre-Taf. Alors, je voulais commencer par déjà préciser que, Flora, tu as fait partie des principales expertes, justement, qui a piloté et analysé cette grande enquête sur la santé mentale au travail, qui a paru en fin mars 2026. exercice. C'est une enquête IFOP pour, je cite, Moka Care, qu'on va recevoir tout à l'heure. Le BCG, donc Boston Consulting Group, un cabinet de conseil stratégique qui me semble, et en plus par rapport à la première grande enquête, et le GHU Paris Psychiatre. Alors je voulais savoir, pour commencer, pourquoi on a intégré le BCG ?
Alors, déjà, la première chose, et c'est bien que tu le dises, c'est que c'est un baromètre aujourd'hui de cette enquête, puisque c'est la deuxième édition qu'on mène de l'enquête. On avait mené une première vague en 2025. Et ce qui va être intéressant, c'est de justement voir les évolutions. Vous en avez déjà cité quelques-unes, mais les évolutions au fil du temps. Donc ça, c'est hyper important. Ça veut dire que ce dispositif, en fait, il se renforce et il se poursuit. Le BTG, c'est un acteur qui était aussi intéressé par ces sujets de santé mentale, qui voulait contribuer à la réflexion sur le sujet. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont intégrés aussi au dispositif.
D'accord. Alors, Paris a décidé qu'avril 2026 est le mois de la santé mentale, qui est déjà, je le rappelle, une grande cause nationale depuis 2025. Alors, pour nos auditeurs, quelle a été la méthodologie de cette enquête, Flora ?
Oui, mais comme en 2025, on a interrogé 2000 salariés français. Donc, pour suivre les méthodologies qu'on fait habituellement, c'est un échantillon qui est représentatif, c'est-à-dire on s'assure d'avoir la bonne proportion d'hommes, de femmes dans notre échantillon, toutes les tranches d'âge, toutes les zones géographiques, tous les métiers. L'idée, c'est d'avoir une petite France des salariés dans cet échantillon, enfin une petite, pas si petite, puisqu'on a 2000 répondants, donc c'est un gros échantillon, et ça nous permet en fait d'aller regarder précisément ce qui se passe au global, mais aussi dans des sous-populations. On va probablement en reparler, mais donc l'idée, c'est de se dire on est sur un échantillon qui est représentatif et qui nous permet de tirer des conclusions à l'échelle nationale.
Et alors je précise, l'enquête a été aussi faite autant dans le public que dans le privé.
Absolument, oui. Et absolument, l'idée c'était d'avoir vraiment un regard assez large sur la condition des salariés en France, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit la taille de leur entreprise ou s'ils travaillent dans le public ou dans le privé.
Alors, on parle de la santé mentale qui s'améliore. Donc, Hugo l'a dit tout à l'heure, on est sur 74% des salariés en janvier 2026 en état de bien-être mental contre 70% en janvier 2025. On est donc à quasiment plus 4. Est-ce que c'est rassurant ? On trouve quand même que c'est plutôt, pas bancal, mais est-ce que c'est rassurant déjà de trouver ce résultat ?
Oui, je pense que ça témoigne déjà d'une évolution. Comme tu l'as dit, comme Simon l'a dit en introduction, il y a des résultats à contraster dans cette enquête, donc tout n'est pas rose. Mm-hmm. Mais moi, je pense que ces chiffres, c'est quand même une évolution qui est significative et ça nous montre qu'il y a une amélioration de la santé mentale aujourd'hui des salariés par rapport à l'année dernière. En sous-texte, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a eu une petite amélioration des conditions qui font que les gens se sentent un peu mieux, ou bien qu'ils ont un peu plus pris en main leur santé mentale, soit eux, soit leur entreprise, pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Après, la question, ça va être de savoir, est-ce que ce chiffre, il va perdurer, continuer à augmenter ? Est-ce qu'il va réfléchir en 2027 ? Et c'est aussi sur le long terme qu'on va pouvoir observer de longues tendances. Mais en tout cas, moi, je crois qu'il faut quand même voir cette progression. Il ne faut pas être non plus trop négatif. S'il y a une progression, c'est quand même, il faut en prendre la mesure et se dire que c'est peut-être aussi l'indicateur d'une démocratisation du sujet de la santé mentale. On verra que c'est encore une démocratisation partielle, mais en tout cas, il y a quand même un signal positif sur le fait qu'on prend à bras-le-corps ce sujet, on commence à vraiment en parler de manière plus ouverte, et donc ça conduit, on l'espère, à une amélioration durable.
Alors, ce qui m'a aussi interpellée, justement, juste juste après les résultats, on parle de ressenti positif. Alors, des deux dernières semaines. Alors, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on pose des questions sur les ressentis à deux semaines. Alors, pourquoi et qu'est-ce que ça change dans les résultats ?
Oui, alors ça, c'est une très bonne question parce que justement, c'est cette question-là qui est socle dans toute l'enquête, hein, qui permet d'évaluer l'état de bien-être mental. Et en fait, cet indicateur, c'est un indicateur de l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, qui en fait permet d'évaluer le bien-être mental des gens sans leur demander si eux considèrent être en état de bien-être mental, parce qu'on peut un peu, on va dire, se tromper soi-même, se sentir bien, pas l'être autant, ou alors se sentir pas très bien, mais pas avoir envie de le dire. Là, c'est justement, on dit au cours des 2 dernières semaines, donc on est quand même sur un temps présent, enfin assez ramassé, est-ce que vous avez vécu ces différentes situations, donc se sentir frais et reposé, etc. Enfin, il y a plusieurs indicateurs et ça nous permet de calculer en fait ce score de bien-être mental qui est un score, j'allais dire objectif, en tout cas qui est déterminé par l'OMS et qui est un peu plus objectif qu'une mesure où on va demander de manière déclarative aux répondants qu'est-ce qu'ils pensent. Et pour revenir à ta question, les 2 dernières semaines, c'est pour être ancré sur un temps présent quand même assez ramassé, pour pas leur demander sur la dernière année, parce que forcément, bah, les états de santé mentale, c'est aussi quelque chose qui peut être fluctuant. Donc l'idée, c'est de prendre une mesure à un instant T.
Et justement, dans l'enquête, donc sur les ressentis, on voit quand même qu'il y a une différence, un contraste entre l'état de santé mentale des hommes, c'est-à-dire que qu'on a une population qui est moins bien. Est-ce que vous pouvez nous dire les populations qui ne sont pas justement, qui font pas partie clairement des personnes qui sont en bien-être? On a quand même des populations qui sont mises de côté. Enfin,
C'est vrai parce qu'en fait, ce premier indicateur qu'on a abordé, il peut nous donner l'impression que tout va bien ou que tout s'améliore, et c'est pas tout à fait le cas. Il y a des situations qui sont contrastées, notamment, il y a des profils qui sont, on va dire, plus à risque. Et nous, on en distingue deux grands profils, on va dire. Ce sont les femmes et ce sont les plus jeunes. Ça va être les deux principaux. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais déjà, les femmes, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si la moyenne de bien-être mental, enfin en tout cas la moyenne des salariés, c'est à 74%, les femmes salariées ne sont que 69% à être en état de bien-être mental, alors que c'est 79% chez les hommes, donc 10 points de plus. Et encore une fois, c'est pas là, on n'est pas sur une question déclarative, donc c'est vraiment purement un ressenti, j'allais dire presque totalement objectif. Donc il y a cet écart-là de ressenti, où les femmes sont en moins bonne santé mentale que les femmes salariées, que les hommes salariés. L'autre différence, c'est celle des plus jeunes. Donc, on regarde, nous, on compare traditionnellement les moins de 35 ans aux plus de 35 ans, et on voit que là aussi, il y a des gros écarts. Les jeunes sont en moins bonne santé mentale, et c'est encore plus vrai qu'on va observer la tranche plus fine des 18-24 ans, qui sont vraiment, eux aussi, en moins bonne santé mentale. Alors, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs pistes
Oui,
aussi
c'est ça.
d'interprétation.
Exactement, j'allais dire comment on interprète ça.
C'est ça. Alors, la première chose sur les femmes, je pense qu'il y a un lien assez fort à faire de deux choses. Il faut se dire que la sphère du travail, elle n'est pas indépendante totalement et hermétique à la sphère personnelle. Et on sait, et c'est mesuré par de multiples enquêtes aujourd'hui, que la répartition de la charge domestique, elle n'est toujours pas égalitaire au sein des couples hétérosexuels. Et donc, on sait très bien qu'en plus de la charge professionnelle, les femmes ont une charge domestique qui est plus élevée que celle de leur conjoint en moyenne. Donc, on peut déjà peut-être se tirer le fil de se dire, bah, cet état de santé mentale, il est peut-être lié tout simplement à une charge mentale qui est supérieure, en fait d'avoir à gérer deux sphères de sa vie de manière peut-être plus prononcée, notamment sur la sphère personnelle. Ça, c'est une première piste d'interprétation. On sait aussi que les femmes travaillent dans des métiers différents de ceux des hommes, hein, si je schématise, que les femmes ont de moindres revenus que ceux des hommes. Elles sont plus nombreuses à occuper des postes, des emplois non qualifiés. Et donc, en fait, on peut aussi se dire que c'est du fait des emplois occupés que les femmes ont une moins bonne santé mentale, puisque ce sont peut-être des postes qui sont plus exposés que ceux des hommes, encore une fois, en moyenne, évidemment, puisque là, on compare des résultats d'ensemble. Ça peut être deux pistes d'interprétation. Une autre piste d'interprétation, toujours sur les femmes, c'est que de la même manière, les femmes, elles font encore l'expérience de situations de sexisme au quotidien, j'allais dire dans la société, et ça ne s'arrête évidemment pas à la porte de l'entreprise. Donc, on peut aussi imaginer que dans certains environnements de travail, l'environnement de travail, il est, si je dirais, peut-être pas forcément plus hostile, mais en tout cas plus favorable aux hommes qu'aux femmes. Et donc, de devoir avancer avec des bâtons un peu plus dans les roues et des environnements qui sont un peu plus conçus et un peu plus facilitateurs pour les hommes, ça peut contribuer aussi à une santé mentale plus dégradée chez les femmes.
Oui, ça, c'est, qui peut faire face aussi au harcèlement, etc.
Exactement. Si on passe côté des jeunes... Il y a plusieurs, là il y a aussi plusieurs éléments et je suis vraiment, enfin je veux dire, on va pas tout explorer ici. Il y a aussi, je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'on est là, on va dire 6 ans post-début du Covid, que nos jeunes, et notamment la tranche la plus jeune,
c'est les moins de 35, les 18-24, voilà, qui sont quand même 46%.
Voilà, les 18-24, ils ont traversé la crise du Covid à un âge très jeune, et donc ça a pu aussi, on va dire, créer certaines fragilités, et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, donc on peut imaginer cet impact-là. Et puis il y a aussi un point, c'est qu'il faut voir que les femmes et les jeunes, ils ont aussi en commun d'être, on le voit dans l'enquête, on va dire un peu plus experts, je mets des guillemets, mais en tout cas qui prennent plus en main aussi quand même leur santé mentale. Donc ça peut paraître paradoxal, mais il y a aussi cette capacité plus forte, je pense, chez les jeunes à lire ses émotions et à les écouter, alors que les générations plus âgées, on les a un peu incitées à tout mettre sous le tapis, à pas se poser de questions, etc. Et donc, en fait, les jeunes, ils vont aussi avoir plus tendance à avoir une capacité à verbaliser les problèmes de santé mentale qu'ils peuvent rencontrer, les troubles qu'ils peuvent rencontrer, alors que des générations plus âgées vont pas forcément se poser de questions, vont mettre une chape de plomb dessus et puis continuer à avancer. Je schématise à gros traits, oui, bien sûr, mais c'est des échanges qu'on avait eus notamment avec Mokaker l'année dernière et avec le professeur Michel Lejoyeux, qui nous disait qu'il y a même un terme médical pour ça, ça s'appelle l'alexithymie, c'est la capacité à lire ses émotions, et que tout le monde n'est pas égal non plus devant ça. Donc c'est aussi une piste d'interprétation, de se dire on s'écoute pas tous et on se comprend pas tous de la même manière.
Et Flora, justement, est-ce que les jeunes qui fréquentent beaucoup les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, est-ce que ces réseaux ont un rôle sur la libération de la parole et ont un effet mental sur les jeunes ?
C'est une bonne question. Alors ça sort un petit peu du scope de l'étude, parce qu'on n'a pas forcément questionné les réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet qui est assez ambivalent, et c'est intéressant parce que ça va être vrai pour tout ce qui est nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un effet positif, puisque sur les réseaux sociaux, il y a aussi du partage de connaissances sur ces sujets de santé mentale. Il y a énormément d'informations, donc la capacité aussi à pouvoir partager ces choses-là. Mais il y a aussi le fait que une utilisation prolongée des réseaux sociaux, ça peut contribuer à de l'isolement, ça peut contribuer à dégrader un quotidien, peut-être réduire le temps de sommeil, etc. Donc c'est forcément ambivalent. Il n'y a pas, je pense qu'il ne faut pas ranger les réseaux sociaux ou d'autres outils comme l'IA, et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, dans une seule case. C'est des impacts qui sont ambivalents, qui peuvent être positifs ou négatifs, tout dépend de la manière dont on les utilise aussi.
Merci beaucoup Flora Bommelin, on se retrouve juste après pour continuer à parler de la grande enquête sur la santé mentale au travail 2026. Avant ça, on écoute du R&B avec Brandy et Another Day in Paradise.
Tell me, yeah. as the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. Another day, paradise. Oh, think twice. Another day, you and me in paradise.
De Brandy sur Radio Campus Paris sur le 93.9.
À Contre-Taf, toutes les 4 semaines, le mardi de 20h à 21h.
Sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous nous retrouvons dans la grande interview avec au micro de Francesca Flora Bomelin qui est venue nous parler de la grande enquête sur la santé mentale au travail 2026.
Alors oui, alors on reprend. Flora, on disait tout à l'heure, 74% des salariés sont en état de bien-être mental. Seulement, on a des résultats, on va dire, un peu contre-intuitifs. On parle aussi de 7 salariés sur 10 disent que leur vie au travail impacte donc positivement d'une part leur santé mentale et en même temps 7 salariés sur 10 ont déjà ressenti un trouble lié au travail. Comment est-ce qu'on peut, comment on interprète ça, comment tenir ces deux réalités ensemble?
Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que c'est toute, j'allais dire toute l'ambivalence de la condition humaine. Hein, c'est-à-dire qu'il y a tout n'est pas tout noir et tout blanc. Le premier indicateur que tu as cité, où il y en a 7 sur 10 qui nous disent avoir vécu un trouble lié au travail. Mmh. Donc, si je te donne un peu des exemples, hein, ça peut être des troubles du sommeil, de la fatigue chronique, de l'irritabilité, de l'agressivité, etc. La question, elle est au cours des 5 dernières années, est-ce que vous avez déjà ressenti les états suivants à cause de votre travail ? Donc, ce qui veut dire, c'est pas loin de moi l'idée de minimiser ce ressenti, hein, mais ce qui veut dire aussi que c'est un ressenti qui peut être ponctuel, et on l'espère. Et en plus, les chiffres sont plutôt en recul par rapport à 2025, donc ça suit quand même ce trend de « on est sur une petite amélioration hein, », même si le score, il est forcément élevé. Donc, je pense que l'ambivalence, elle vient de là, c'est-à-dire de se dire bah, « on a déjà ressenti un de ces états au cours des 5 dernières années », ce qui ne veut pas dire que ça a été un état continuel et que ça continue de l'être. Ce qui veut dire aussi que le travail, même si ça peut générer des troubles et des problèmes, ça génère aussi du positif. Et ça peut être aussi un facteur de protection, ça crée de la sociabilité, ça peut créer de l'épanouissement, ça peut créer de la satisfaction d'avoir créé quelque chose, etc. Et donc bah, forcément, ça explique aussi qu'on ait un bon nombre de salariés qui nous disent bah, Oui, le travail, ça contribue aussi positivement à ma santé mentale parce que ça donne un rôle aussi dans la société d'avoir un travail. On sait que ça conditionne aussi tout simplement l'accès à un revenu. Donc, de cette manière-là, bah, ne pas avoir de travail, c'est aussi encore plus compliqué que d'avoir un travail quand bien même il soit pas forcément toujours parfait et qu'il entraîne aussi des problèmes de santé mentale. Donc, je pense que c'est de cette manière-là qu'il faut envisager ces chiffres.
D'accord. Alors là, tu disais que c'était aussi un facteur de protection. Après, alors c'est le quatrième, il me semble. Et en premier, c'est l'amitié, la famille, le couple et le travail vient en quatrième position. Donc, oui. Ce qui contribue au bien-être, en fait, enfin à la santé mentale, positivement.
C'est ça.
D'accord. Oui, dis-moi.
Non, mais j'allais dire, on voit que, bah, évidemment, la sphère personnelle, elle est plus proche, elle contribue plus positivement, et c'est somme toute assez logique, mais le travail, ça crée aussi de la sociabilité. Je pense que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Au travail, il y a aussi les collègues, les interactions qu'on peut avoir. Je pense que ça contribue aussi au positif.
Oui, tout à fait. Alors, un petit peu, enfin, on va partir du côté qui est un peu moins fun. Évidemment, on va parler de ce que c'est. On en parle, hein, on le qualifie d'ailleurs de phénomène structurel. On parle du burn-out. Il est indiqué dans l'enquête que 24% des salariés en ont déjà vécu sur ces 5 dernières années. Alors, le mot structurel, je trouve qu'il fait peur. Hein. Est-ce qu'on n'est pas en train de normaliser le burn-out ?
Oui, et alors là, c'est pareil, je veux pas du tout minimiser le ressenti des répondants. Hein. Après, on reste sur du déclaratif, c'est eux qui ont qualifié ça, donc on n'est pas sur un diagnostic médical non plus. Hein. Je tiens juste à le préciser, mais ça veut pas dire, pour autant, c'est quand même assez inquiétant hein, qu'on ait un salarié sur quatre qui nous dise « Oui, au cours des 5 dernières années, j'ai ressenti ce syndrome-là ouais. ». Donc oui, c'est inquiétant, bien c'est inquiétant. Sûr. Ouais. En plus, le score, il monte à 30% chez les moins de 35 ans. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas non plus capable de protéger les plus jeunes générations. Comme tu le dis, c'est une forme de normalisation. Enfin, il y a beaucoup d'enquêtes aussi qui montrent qu'on va vers une intensification du travail. Donc, on cherche à toujours rester dans une dynamique, une perspective de croissance, quand bien même le contexte économique est difficile. Et donc, pour ça, les entreprises, elles mettent les bouchées doubles, voire triples. Elles comptent sur leurs salariés de manière de plus en plus exigeante. Et forcément, ça peut conduire à ces syndromes d'épuisement, oui.
Et est-ce que aussi... là, on parle de la grande enquête, mais je trouve aussi quand même, en termes, on va dire, de société, on en parle un peu plus hein, de la charge mentale, la santé mentale. On parle aussi de dépression. Est-ce que aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais parce que c'est sociétal qui fait que, et qu'avant c'était un peu plus dans la vigilance, on n'en parlait pas beaucoup, on s'en cachait peut-être aussi. Est-ce que c'est quand même lié avec notre environnement qui a changé ? Est-ce qu'il y a un an, on en parlait facilement ?
Alors, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit recul des personnes qui nous disent avoir vécu un syndrome d'épuisement, un burn-out, puisqu'on était à 28% l'année dernière, là on est à 24%, donc... on peut que se réjouir de ce petit recul, mais en effet, le fait qu'on soit capable de le dire, moi je pense que c'est aussi un progrès, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, en fait, c'était très tabou, les gens n'en parlaient pas. Je pense que même sur les réseaux sociaux professionnels aussi, les gens osent plus partager ces expériences-là. On voit aussi que les entreprises, elles prennent le sujet en main. Et ça, je pense que Guillaume de Moka pourra vous en parler tout à l'heure. Mais les entreprises se conscientisent beaucoup plus et elles comprennent aussi beaucoup mieux. Les équipes RH comprennent aussi aujourd'hui beaucoup mieux ce qui se passe qu'il y a quelques années où même les équipes RH, les managers n'étaient pas formés à ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a quand même une acculturation du monde de l'entreprise au sujet de la santé mentale et à l'impact que peut avoir le travail sur la santé mentale.
D'accord. Et je fais le parallèle, donc la santé mentale, on parle bien au travail. On sait que au travail, que chacun, tout le monde a un rôle. Et ce qu'on a pu voir dans la grande enquête, c'est qu'il y a quand même trois leviers décisifs hein, pour le bien-être au travail. On parle de trois points qui, j'ai envie de dire, gratuits, le soutien du manager, la liberté d'exprimer son désaccord, la reconnaissance. Pourquoi alors, je sais que tu vas pas pouvoir forcément me dire ce que tu n'es pas à la place d'entreprise, mais pourquoi quand même, d'après toi et de ce que tu as pu entendre, peut-être des mots qu'ils ont pu dire, les personnes qui étaient en enquête, enfin sondées, pourquoi les entreprises elles ont du mal, tant de mal à les mettre en place?
Ce qu'il faut voir, c'est que chaque entreprise a sa propre culture d'entreprise aussi. En fonction de la taille, ce sont des gros paquebots à faire bouger, on va dire. Enfin, ça peut l'être. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et nous, sur d'autres enquêtes, qu'on va interroger les dirigeants ou les DRH sur leurs priorités par rapport à l'avenir, quand bien même les enjeux santé mentale commencent à émerger dans leurs préoccupations, la préoccupation d'un dirigeant, avant tout, c'est de maintenir une entreprise viable pour pouvoir continuer à payer ses salariés, pouvoir continuer à faire rentrer du business, etc. Et donc, en fait, quand les contextes économiques se tendent, c'est aussi des moments où c'est plus compliqué pour les dirigeants de s'en occuper, parce qu'il y a... Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Et puis, il y a le sujet aussi même de la santé mentale des dirigeants eux-mêmes qui sont aussi particulièrement exposés. Tout à l'heure, je ne l'ai pas cité, mais dans les profils qui sont à risque, on a aussi les encadrants qui se disent en meilleure santé mentale, enfin qui sont en meilleure santé mentale, mais qui sont quand même exposés aussi à plus de risques.
Alors, j'allais dire, donc elle est... Alors, c'est les non-encadrants qui ont quand même une santé mentale qui est très décalée négativement par rapport aux hommes, d'ailleurs par rapport aussi à d'autres populations. Est-ce que c'est pas le fait de justement... Alors là, je fais le pont. Le fait justement qu'ils sont plutôt dans l'exécution, subir aussi justement cette pression, que ce soit de la performance, du chiffre. Et est-ce qu'il n'y a pas de l'attente justement un peu plus? C'est pour ça que cet item, il ressort dans ce sens-là.
Oui, absolument. Et c'est vrai que tu fais tout à fait bien de faire le lien avec l'autonomie, parce que forcément, plus on va être non encadrant, etc., plus on va subir des décisions qui sont pas les nôtres, plus on risque de manquer d'autonomie. Et ça fait partie des facteurs qui dégradent la santé mentale, mais aussi de manière plus simple, la satisfaction au travail aussi. Nous, on voit quand on travaille sur ces sujets-là, avant même d'être un problème de santé mentale, c'est un problème de satisfaction. Ou quand on manque d'autonomie, fréquemment, on est moins satisfait de son travail. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des leviers sur lesquels les entreprises peuvent agir et qui ne sont pas forcément toujours des leviers extrêmement coûteux. Mais justement, tout ce que tu citais de soutien managérial, de laisser la possibilité aux gens d'exprimer leurs désaccords, de marquer de la reconnaissance... Tout ça, ce n'est pas des choses qui chiffrent directement. Et donc, c'est aussi une révolution culturelle qui est appelée là, dans les entreprises.
Alors, juste une dernière question, parce que c'est hyper important, puisque là, ça va à la fin. On arrive à la fin de cette interview. Justement, donc, le regard qu'on a sur les personnes qui ont des troubles de santé mentale, qui s'est durci, on est à plus de 10 points en un an. Comment est-ce qu'on explique ça? On parlait tout à l'heure d'autonomie, mais de sécurité psychologique aussi. Est-ce qu'on est encore sur une société qui stigmatise?
Et oui, et c'est vrai que quand on disait que les résultats de l'enquête étaient constatés, moi je pensais notamment à ces résultats-là, on voit qu'il y a quand même un petit reflux où en 2025 les résultats étaient plus positifs, et là, sur toute une série d'indicateurs, on voit que le regard porté sur la santé mentale est encore, on a encore des freins culturels sur le sujet. Je pense que ça s'explique de deux manières. D'une part, encore une fois, ces perceptions, elles ne sont pas homogènes au sein de la population d'ensemble. On voit que par exemple les hommes sont plus critiques sur ces sujets-là, ils vont être plus porteurs de stigmatisation sur les sujets de santé mentale, et ça rejoint aussi le fait que ce sont plutôt les femmes qui sont touchées par ces sujets de santé mentale, en tout cas de manière plus large. Et puis simplement aussi se dire que on est quand même dans un contexte politique, géopolitique, un peu de backlash sur les sujets que ce soit de santé mentale, d'égalité, de diversité, d'inclusion. On a un retour du conservatisme de plein de manières différentes qui vise à minimiser, voire à effacer ces sujets-là, et je pense que c'est pas anodin.
Merci beaucoup, Flora Bommelin. Vous étiez au micro de Francesca pour nous parler de la grande enquête sur la santé mentale au travail 2026, qu'on peut retrouver directement sur le site internet de l'IFOP, et sur, d'ailleurs, tapez-le sur Google directement. Tout de suite, c'est l'horoscope des métiers.
L'horoscope des métiers.
C'est quoi ça?
salons et les secteurs qui recrutent. Plateformes de livraison ont profondément transformé le travail, mais derrière la promesse de flexibilité, un modèle pose problème, c'est le management algorithmique. Concrètement, ce ne sont plus les managers humains, mais les algorithmes qui attribuent les courses, évaluent les performances. Attention, ils sanctionnent. Donc dans cette étude, ce qui a été révélé réellement, c'est que les livreurs travaillent jusqu'à 60 heures par semaine, souvent 6 à 7 jours sur 7, pour des revenus très faibles. Ils sont soumis aussi à une pression constante, aller plus vite, livrer plus vite, être bien noté. Et ensuite, le système n'est pas très clair, on va dire plutôt opaque. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils sont favorisés ou pénalisés. Donc, ce mode de management entraîne, et évidemment, c'est pour ça qu'on fait le lien avec la santé, la grande enquête, la santé mentale, stress chronique, anxiété, fatigue, épuisement et bien sûr, isolement. Aucun encadrement humain réel, voilà ce que ça donne. On va faire un petit tour au MUCEM où le climat interne est en pleine crise. De nombreux salariés dénoncent le management de son président Pierre-Olivier Costa avec des mots très forts, climat délétère, système de cours, voire de petit roi. Vous entendez ça, de petit roi. Une enquête judiciaire est ouverte justement pour harcèlement moral et sexuel et une enquête administrative du ministère de la Culture examine en ce moment même le climat social. Coup dur, enfin pour terminer, chez Nike, d'après la dernière enquête de Mediapart, la grande société internationale de marque ne paye pas ses employés. Être payé normalement est devenu un sport de combat chez Nike. Depuis plus de 2 ans, des salariés de Nike en France dénoncent des retards de salaire, des erreurs de paie qui sont assez fréquentes, des indemnités maladie qui sont non versées. Résultat, les employés se retrouvent en difficulté financière directe. C'est plus de 27 000 alertes en 2024, dont plusieurs milliers qui sont liées à la paie. Les représentants du personnel parlent d'une gestion défaillante et désorganisée. Eh bien, c'est bizarre, hein, pour un sponsor qui est très bien organisé, c'est un peu dommage.
Je vous emmène au royaume du sirop d'érable avec une Québécoise qui s'appelle Charlotte Cardin, avec Tant pis pour elle. Merci beaucoup Francesca pour cette petite chronique.
Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel. Le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Fini ce bordel, hésitation à terme, c'est moi que tu aimes. T'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin des querelles, des pluies torrentielles. Elle pleuvait sur toi. Moi, je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes. Et on s'échappe du système. Que je vide de tes veines. Jusqu'à ce que rien ne t'appelle.
Tant pis pour elle de Charlotte Cardin sur Radio Campus Paris. La contre-interview Innovation Métier.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ça innove à contre-taf.
C'est dur de travailler pour vous, on est heureux comme des fous.
C'est l'heure de l'interview Innovation avec Moka Kerr, qui est aussi à l'initiative du rapport IFOP, le grand rapport sur la santé mentale au travail 2026. Nous sommes avec le cofondateur de Moka Kerr, Guillaume Deguevive. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Merci à vous. Alors, sur votre site, il est marqué que vous êtes l'allié santé mentale de votre organisation. Vous avez aidé plus de 320 entreprises et institutions qui font confiance à Moka Kerr pour prévenir les risques psychosociaux et renforcer le bien-être mental de leurs équipes, managers et aussi la direction RH, bien sûr. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Moka Kerr, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Mocap.ker, c'est une entreprise qu'on a créée toute fin 2019 avec mon associé Pierre-Étienne Bidon. Et ce qu'on s'était rendu compte nous-mêmes, c'est que ça venait de notre propre histoire. On n'était pas seulement d'un burn-out, en tout cas en ce qui me concerne. Et je m'étais rendu compte que les solutions qui existaient notamment les lignes d'écoute psychologique, c'était des choses qu'on allait appeler un peu en dernier recours, souvent quand c'est trop tard. Et donc avec Mocha.care, on a voulu proposer des solutions qui étaient beaucoup plus dans la prévention. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On a un peu plus d'une dizaine d'outils et de services, mais si je devais en citer peut-être que un ou deux, c'est de proposer à chaque personne d'aller parler à un psychologue, un coach certifié ou un thérapeute. Et les premiers rendez-vous vont être financés par l'entreprise ou l'organisation, mais l'organisation ne sera pas au courant que moi, Guillaume, je vais parler à un psychologue. Et donc je ne me sens pas jugé par mon DRH ou par mes collègues.
Et c'est vous qui allez organiser les rendez-vous?
Et alors nous, en fait, ce qu'on va proposer, c'est que en tant que collaborateur, vous avez accès à l'ensemble des psychologues, des coachs qu'on a pu sélectionner un à un. Et ensuite, je vais pouvoir choisir moi la bonne personne pour m'accompagner, parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait toujours des attentes qui étaient très différentes. Et le premier facteur de réussite d'un accompagnement, en fait, c'est l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire, est-ce que j'ai confiance en la personne à qui je parle? Si je peux vous mettre en face du meilleur psychologue qui soit, si vous n'avez pas confiance en cette personne pour X ou Y raison qui ne vous appartient qu'à vous, en fait, ça ne marchera pas. Donc, nous, on va essayer de vous faire rencontrer la personne vraiment faite pour vous.
En première partie d'émission, on était avec Flora Bemelin de l'IFOP et l'enquête, la grande enquête sur la santé mentale au travail 2026, elle montre une légère amélioration du bien-être des salariés, mais il y a quand même un quart d'entre eux qui restent en situation de mal-être. Chez vous, est-ce que ça vous fait plus de travail ou moins?
C'est une bonne question. Sincèrement, c'est assez indépendant parce que nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les organisations qui allaient faire appel à nous, à nos services, c'était des organisations qui étaient très sensiblement et sincèrement ouvertes au sujet. C'est-à-dire que c'est pas forcément là où il y avait le plus de mal-être qu'on allait faire appel à nous. Et donc, s'il y a un peu plus de mal-être ou un peu moins, finalement, ça n'allait pas changer parce que c'est des personnes qui ont des convictions profondes qu'ils ont envie de défendre. Donc sincèrement, in fine, ça ne change pas grand-chose pour nous.
Parce qu'avant tout, quand on fait appel en vous, c'est aussi pour améliorer les performances, j'imagine.
Alors, il y a toujours en effet le lien qu'on peut faire entre santé mentale et performance. Et ce qu'on aime bien rappeler, nous, c'est qu'un athlète ou une athlète de haut niveau, pour performer, il ou elle a nécessairement besoin de bien se sentir dans sa tête. C'est strictement impossible sans ça, sans gérer la pression de la finale, sans gérer la pression de l'enjeu. Et donc oui, là, en entreprise, c'est la même chose. Si je broie du noir toute la journée, si je dors mal, si je n'arrive pas à gérer les conflits, nécessairement, je vais avoir une bonne performance. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que nous, c'est des DRH qui vont faire appel à nos services. Et les DRH qui font appel à nos services, c'est des personnes qui sont convaincues avant tout par l'aspect humain, que par l'aspect performance. Bien évidemment, ils sont contents de la performance, tout le monde est toujours content, mais ce n'est pas la première raison de faire appel à nous.
Et alors, est-ce que ces managers, ils ont aussi des problèmes de santé mentale au travail?
Alors, les managers, ils sont concernés. On est tous concernés, pas la santé mentale, hein, au titre qu'on a tous une santé mentale, au même titre qu'une santé physique, mais les managers n'y échappent pas. Les managers, ils ont notamment l'enjeu d'avoir pas mal de pression qui vient du haut. Voilà, on a des objectifs à atteindre, c'est pas toujours facile, et on a une équipe qui est parfois moins engagée que le manager ou la manager, ou qui a des sujets qui arrivent avec certaines demandes, et donc le manager, il est pris entre les objectifs business et les enjeux humains de mon équipe, et parfois c'est difficile parce que c'est un peu le grand écart. Donc les managers, parfois, ils peuvent se retrouver un peu démunis face aux sujets humains, et ils sont là, moi je comprends pas, je suis pas psychologue, et toute la journée je dois gérer des sujets humains, je suis un peu perdu. Donc c'est d'autant plus important de les accompagner, de les former, déjà qu'ils se disent, tu n'as pas vocation à devenir psychologue, mais des réflexes que tu peux avoir, comme l'écoute active, comme rediriger une personne, avec des signaux faibles, détecter un petit peu ce qui ne va pas. Et donc, ils sont concernés. Et surtout, ça, c'est un peu la métaphore du masque dans l'avion. C'est-à-dire, dans le masque dans l'avion, on commence par soi-même. Et bien, le manager, pour se sentir bien et pour que son équipe se sente bien, il faut d'abord que lui se sente bien. Et donc, comment est-ce que lui, on l'accompagne pour que il ne se fasse pas manger par son stress qui va nécessairement se répercuter sur son équipe s'il n'est pas bien géré.
Alors, vous dites, Guillaume, que tout le monde est concerné, notamment aussi, c'est vrai que les managers, ils sont entre deux, hein, ils sont entre les dirigeants et les équipes. L'étude montre que 85% des salariés attendent des mesures de leur employeur, mais seulement 27% des entreprises n'ont toujours aucun dispositif. Alors, quand vous rencontrez un dirigeant, c'est quoi leur principal frein? Est-ce que c'est du déni, c'est plutôt le coup, ou c'est peut-être aussi le fait de ne pas savoir par où commencer?
C'est bien résumé. En effet, je pense que tout d'abord, il y a une première partie déni, c'est-à-dire on a une solution chez nous, on a une ligne d'écoute. Je vais donner un ordre de grandeur sur, vous avez une entreprise de 1000 personnes, vous avez une ligne d'écoute, vous allez recevoir, Ça dépend bien sûr des cas, mais une dizaine d'appels dans l'année. Donc en fait, votre ligne d'écoute, elle a de la valeur, mais elle est très peu utilisée. C'est souvent pour des cas de détresse. Et ça, souvent, le DRH se dit, bon, bah, si elle n'est pas appelée, c'est qu'en fait, je n'ai pas de problème. Non, c'est une vision qui est trop tronquée. Donc, il y a une partie déni. Après, il y a en effet toujours la partie coût. C'est jamais agréable de dépenser plus d'argent qu'on a prévu. Et c'est encore moins agréable de se dire, bah, j'ai des arrêts maladie qui me coûtent de l'argent. Et là, donc, pour régler mes arrêts maladie, il faut que j'aille dépenser encore plus d'argent. Donc il y a ça. Et après, il y a une troisième chose qui est un peu un argument plus psychologique, c'est qu'on a des dirigeants qui vont se dire, est-ce que c'est mon rôle en tant que dirigeant, en tant qu'entreprise, d'aborder le sujet de la santé mentale? Et nous, notre réponse par rapport à ça, sincèrement, c'est que, est-ce que c'est le rôle, oui ou non? Ça, c'est une question philosophique, et donc chacun pourra se faire son opinion. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est dans l'intérêt de l'entreprise de faire attention à ses équipes. Et ça fait écho au sujet de performance qu'on a évoqué tout à l'heure, et donc avec l'impact sur l'absentéisme, le présentéisme, qui sont évidents et dont chacun se rend compte tous les jours.
Et l'étude qui a été faite a identifié, donc là on est toujours sur le terrain, on a identifié trois leviers simples. On a parlé tout à l'heure à Flora, soutien du manager, liberté d'expression, reconnaissance. Et alors on est bien d'accord, ce sont des choses qui ne coûtent rien. Alors moi ce que je voulais savoir, c'est quand vous intervenez dans l'entreprise, est-ce que c'est ces points, on va dire gratuits, vous les regardez en premier, et qu'est-ce que vous, enfin dans les premières semaines, sur quoi est-ce que vous agissez en premier, justement?
Oui, alors en effet, ça c'est des, au niveau gratuit, il y a des actions en effet qu'on peut faire. C'est-à-dire que typiquement, le ou la dirigeante de l'entreprise, elle peut prendre la parole et donner des exemples. Et en fait, ça c'est vraiment si le dirigeant exprime de la reconnaissance, ça va cascader dans l'entreprise. Tout le monde va exprimer de la reconnaissance. Et reconnaissance, c'est pas uniquement reconnaissance financière, c'est juste par rapport au travail qui a été accompli. Et donc, il y a vraiment des actions qu'on peut faire dès demain, en fait, si le top management s'empare du sujet. Et sinon, l'autre chose qu'on peut faire, c'est vraiment former les managers à comment est-ce que je fais pour exprimer de la reconnaissance. Enfin, il y a des techniques. Parfois, il faut aller un petit peu à l'inverse de notre culture, qui est toujours très « c'est pas si mal, mais on va plutôt exprimer quand il y a un problème ». Donc voilà, ce qu'on va préconiser, c'est le management qui prend la parole et des formations pour les managers au global.
Quand vous me parlez de culture, moi, ça m'évoque beaucoup la culture américaine ou canadienne, qui ont tendance à plus remercier leurs employés à la fin d'un travail, une journée de travail, à leur dire c'est bien, bravo. Pourquoi est-ce que nous, en France, on a moins l'habitude et peut-être on est moins apte à faire ça, à dire à un employé, bah, c'est bien, t'as bien bossé aujourd'hui, merci pour le dossier?
Alors, c'est une très bonne question. Il y a déjà une question d'habitude. Juste en réplique, en fait, par mimétisme, ce qu'on a vécu nous-mêmes, tout simplement. Donc, on ne nous a pas trop dit merci. Bah, pourquoi est-ce que moi, je dirais merci? La deuxième chose, c'est que souvent, parfois, le manager, la manager, il a peur de se dire, si je dis merci, si je remets la reconnaissance, dans 3 mois, dans 6 mois, on va me demander une augmentation et j'aurai du mal à dire non. Et donc, en fait, mais en fait, ce qu'on oublie très souvent, c'est que c'est aussi un exprimant de la reconnaissance que la personne dans son équipe va d'autant plus vous écouter. Et ensuite, quand vous aurez peut-être un retour un peu plus challenging, un peu plus négatif à faire en disant que, je ne sais pas, à tel moment, j'aurais attendu plus de toi, la personne de votre équipe va d'autant plus vous écouter parce que vous avez été capable également de lui exprimer de la reconnaissance. Donc c'est vraiment dommage. Ça, sincèrement, c'est dans l'intérêt de tout le monde, du manager en premier lieu, d'exprimer de la reconnaissance.
Alors, je voulais quand même demander sur par rapport à l'enquête, le résultat global, Guillaume, où on a 74% de bien-être versus 70% en 2025. Est-ce que ça veut dire que, ou peut-être l'inverse hein, d'ailleurs, est-ce que ça veut dire que les entreprises vous demandent plus, enfin, vous sollicitent plus, ou peut-être par rapport à ça, vous sollicite moins, mais qui ne veut pas dire, alors j'essaie d'être claire, hein, mais qui ne va pas dire qu'elle va bien, mais c'est juste que c'est quelque chose qui ne les préoccupe pas.
Oui, sincèrement, nous, on a observé une hausse des demandes ces 2 dernières années, je dirais. Je pense qu'il y a une prise de conscience globale dans la société des enjeux de santé mentale. Vous regardez par exemple là les hospitalisations des jeunes enfants entre 10 et 14 ans pour tentative de suicide, elles ont augmenté sur la dernière année de 118%. Donc il y a quand même des choses où les gens prennent conscience. Et on est également grande cause nationale en 2025, oui. en 2026. Donc ça veut dire qu'on en parle de plus en plus de sujets. Ben là, c'est notamment le sud de l'émission avec le mois de la santé mentale à Paris. Oui. Et donc les DRH notamment, les dirigeants, ils se disent avant, la santé mentale, c'était un sujet un peu intime où si je prenais la santé mentale, j'abordais la santé mentale, on allait me dire, bah, tu vois, puisque tu as mis en place Mocha.care, ça veut dire qu'il y a un problème chez toi. Maintenant, ils se disent, ah, mais en fait, c'est grande cause nationale. Donc, en fait, c'est un sujet sociétal. Donc, si moi, je mets en place Mocha.care, ça veut dire juste que je suis quelqu'un de moderne, qui a pris conscience des enjeux d'aujourd'hui et qui prend des actions concrètes. Et donc, il y a un peu une libérale, on est un peu moins complexé pour aborder le sujet. Et donc, on voit plutôt une hausse globale. Et maintenant, la question, c'est plus est-ce que je vais faire des actions en lien avec la santé mentale, mais de plus en plus, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je priorise ?
Merci beaucoup, Guillaume Desguillons. En fait, vous êtes CEO et cofondateur de Mocha.care. Vous êtes aussi, on parlait beaucoup du grand rapport pour la santé mentale au travail 2026. Merci beaucoup d'avoir été avec
nous. Merci beaucoup, Guillaume.
Tout de suite,
merci à vous deux.
À Puerto Rico avec l'artiste le plus écouté de l'année. Il a sans doute composé un des titres aussi les plus écoutés de l'année. En tout cas, il est en haut des charts. On a beaucoup pleuré dessus. C'est DTMF et Debiter Mas Fotos tout de suite sur Radio Campus Paris.
Sonce bonita que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré. Y contarte las cosas que no te conté.
¿Te parecía a mi crush?
Y tirarte la foto que no te tiré.
Pecho bolote, es lindo, déjame traerte una foto.
Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata.
Y sería cabrón que yo me toque el cuiro.
Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi lonquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo. Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho.
Allez, va bosser, feignant.
Le boulot, c'est le boulot.
Pour clore l'émission, chronique humoristique de moi-même, de Gogo. Francesca, ça va? Tu vas m'écouter cette fois? Merci beaucoup. Humour toujours, humour, amour toujours, mais surtout santé mentale toujours. Comment ça va, vous? Le prix de l'essence monte. Enfin, ça me touche pas, moi, je dirais le prix du Vélib augmente. La guerre éclate et le Franprix en bas de chez moi n'a plus de chips au vinaigre. Et moi, j'adore les chips au vinaigre. Oui, la chronique ne va parler que de ça. Toi, quand ça va pas, tu sers ta copine dans les bras, tu manges du Nutella. Moi, je m'avale littéralement et rapidement tes chips au vinaigre. C'est mon moment. Je ne respecte personne, j'en fous partout, j'ai les doigts qui puent le vinaigre. Et après, à la fin, attention, je me suce les doigts. Eh bien, ça participe à l'amélioration de ma santé mentale. Ce petit paquet rose violet, oui, parce qu'il y a d'autres marques aussi plus chères qui font des chips sea salt and cider vinegar avec des images de vieux monsieur dans une ciderie. Eh bien, c'est non, c'est pas bon. Donnez-moi les classiques de Carrefour. Lay's a essayé aussi, mais non, ça ne marche pas. Je suis désolé, seuls les vrais fans comprendront. Écoutez, à un moment, comme tout homme blanc cis issu de la classe moyenne, j'ai fait un road trip pendant 6 mois en Amérique latine. 6 mois à boire, à parler espagnol avec une peau bronzée, satinée et un sourire d'ange. Mais 6 mois sans chips au vinaigre. C'était l'enfer. Alors moi, je dis plus jamais ça. Plus jamais ces mois sombres, je ne revivrai. Appelons un chat, à côté le Covid c'était facile, la guerre en Ukraine ça nous a juste privé de moutarde, mais la moutarde ça m'excite moins, c'est comme ça. Alors oui, j'ai fait un choix, celui de me sentir bien, n'en déplaise, aux aficionados des chips au poulet braisé. Je suis énervé, le manque de vinaigre peut-être, la clope j'arrêterai, les chips au vinaigre jamais, au grand jamais. Vous savez, dans la vie, il y a deux types de personnes, les passionnés et les non-passionnés. Eh bien, moi, je ne rentre dans aucune de ces cases. Les cases, c'est non. Je préfère les ronds, les rondes jambes, les rondades ou même les cerceaux. Tout me va. Tout me va tant que je peux rentrer chez moi et apercevoir ce bel emballage violet rose et ouvrir ce paquet croustillant. D'ailleurs, souvent, je l'ouvre dans l'escalier et je l'ai presque fini arrivé à ma porte. Et oui, je suis ce genre de personne. Ne me jugez pas. No judgment, Francesca.
Je ne te juge pas, absolument pas.
Merci beaucoup. Vous n'avez pas le droit et je n'en ai pas envie. Aimez-moi vinaigré ou ne m'aimez pas, disait Jean-François Copé au salon des apéritifs vinaigrés en 2012. Alors, tout ça donne soif et de ce côté, je me contente de l'eau. L'eau du robinet, l'eau de source ou même l'eau de rivière, tout me va. Angel life like water after vinegar chips, disait Will Smith aux Oscars en 2022, après avoir giflé Chris Rock. Il était sûrement en manque de chips au vinaigre, je vous le dis, mais aujourd'hui, il va mieux, beaucoup mieux, Will, il a changé. Et ça, c'est grâce aux chips au vinaigre, la base de toute réussite et peut-être à l'horizon de la vôtre, qui sait, nobody knows. À part vous. Bonne soirée à vous. C'est déjà la fin d'un contre-taf à la Réal. C'était ce bon vieux Simon. Merci beaucoup, Simon. À la co-interview, c'était. Enfin, l'interview même, c'était Francesca qui nous a également fait l'horoscope des métiers et également l'interview innovation. On se retrouve dans un petit mois. Ça va aller? Un mois sans nous? Merci beaucoup. C'était à contre-taf sur Radio Campus Paris, le 93.9. Bonne soirée à toutes et à tous.